Radio 1, la première FM de Tahiti, vous offre une nouvelle heure. Radio 1. Premier sur l'info, l'info locale.
Il est midi, je vous souhaite un bon appétit. Voici les titres de votre journal local. Bonjour Wallis.
Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Covid-19, 511 cas en Polynésie française. Les 6 réservistes sanitaires sont arrivés ce week-end pour renforcer les équipes du PC de crise du bureau de veille sanitaire. Ils étaient reçus ce matin et au Saria. Vous entendrez justement Éric Ledru, médecin épidémiologiste, dans ce journal. Politique, Eora Les Verts lance sa campagne pour les sénatoriales.
Covid-19, 511 cas positifs en Polynésie.
La Polynésie française compte à présent 511 cas de la Covid-19 depuis le 2 août. Parmi eux, 205 sont sortis d'isolement et considérés comme guéris. Les autres cas confirmés durant ces 10 derniers jours sont tous isolés à domicile ou en centre dédié, soit 39 personnes. Et 10 personnes sont actuellement hospitalisées au CHPF pour des signes de la maladie, dont 4 en service de réanimation. La moyenne d'âge des personnes hospitalisées est de 52 ans. Les cas actifs sont localisés dans les communes urbaines de Tahiti ainsi qu'à Bora Bora et Raiatea. Les chiffres du nombre de personnes testées sont passés à 7230 et le nombre d'autotests réalisés à 14463. Par ailleurs, le point presse sur la situation sanitaire qui devait avoir lieu cet après-midi à 15h a été annulé.
Covid-19 toujours, les renforts sanitaires sont arrivés au Fénois pour réaliser des enquêtes autour des cas.
Ce matin, au commissaire Dominique Sorin, Édouard Fritsch, le président du pays, ainsi que le ministre de la Santé, Jacques Rénal, étaient réunis ce matin pour présenter les 6 réservistes sanitaires arrivés de France ce week-end pour renforcer les équipes du PC de crise du bureau de veille sanitaire. On écoute justement docteur Éric Ledru, médecin épidémiologiste et biologiste.
Nous sommes environ 4000 réservistes sanitaires qui dépendent donc de Santé Publique France, qui est une agence du ministère de la Santé à Paris. Et nous sommes tous volontaires pour ces missions que nous faisons le plus souvent en plus d'une activité professionnelle. Nous sommes donc disponibles pour des créneaux relativement courts de quelques semaines, mais une continuité est toujours assurée dans le renouvellement des équipes quand c'est nécessaire. Personnellement, moi j'ai assuré initialement les quarantaines des rapatriés français qui étaient rapatriés donc de Wuhan en Chine en métropole.
La direction de la santé compte sur leur expérience de terrain et sur leur capacité d'analyse du mode de diffusion de la Covid-19 selon les tranches d'âge et les risques que représentent les personnes touchées. Ils seront amenés à faire de la pédagogie auprès des personnes qui devront s'isoler.
Je pense que c'est le bon moment pour identifier les chaînes de transmission et les casser maintenant. Oui. Concrètement, une partie de l'équipe va être en soutien méthodologique à la direction de la santé. Nous serons aussi amenés à effectuer des enquêtes de terrain pour étudier les chaînes de transmission et les réduire. Donc il y aura une partie de coordination au niveau de la direction de la santé publique et une autre une action de terrain également pour aider au renforcement des gestes barrières, etc. et à la perception de ces gestes barrières aussi, parce que pour expliquer aux gens les modes de transmission et convaincre les gens de façon positive à renforcer et respecter les gestes barrières qui sont la pierre angulaire de la lutte contre le Covid.
Le président du pays, Édouard Fritsch, et le ministre de la Santé, Jacques Rinal, sont ouverts, disent-ils, au changement de certains protocoles à la lumière de ce que diront ces spécialistes. Écoutez le président du pays.
J'attends surtout de ces hommes et de ces femmes un retour de leur expérience et donc un enrichissement. En fin de compte, quant aux décisions que nous prenons, nous, ici en Polynésie, je pense que, oui, effectivement, qu'il faudra vraisemblablement peut-être changer certains protocoles chez nous, voire même certaines procédures.
Des propos recueillis par Caroline Perdri.
Les écoles Eitamahere de Taravao et Veiaha de Faa restent fermées.
Par précaution, les autorités maintiennent la fermeture de ces deux écoles jusqu'au 4 septembre. Pour l'heure, il n'y a pas de nouvelle fermeture d'école ou d'établissement d'annoncer. À noter que les directions des enseignements privés catholiques, protestants et adventistes communiqueront dans la journée sur les situations de leur établissement et de leur classe.
Midi 5, la suite de votre journal local. Oe Toerima menace de grève 3 sociétés du groupe Van.
Si vendredi, l'intersyndicale CSTPFO, CSIP, Oe Toerima, Otaï et la Fédération de la Manutention Portuaire ont signé un préavis de grève générale en protestation contre la gestion de la crise sanitaire par les autorités. Selon nos confrères de Tahiti Info, le syndicat Oe Toerima avait déjà déposé jeudi différents préavis dans les sociétés Van Distribution, Codep et Sopal. Parmi les revendications, le maintien des acquis de l'ensemble des salariés, la mise aux normes du plan d'évacuation, le reclassement de la DGRH du groupe et la mise en place d'une pédagogie sur les nouvelles méthodes de travail. Et si les négociations échouent, la grève débutera le 2 septembre.
Sénatorial, Jacques Ébriand a présenté son programme samedi.
En 2015, Jacques Ébriand avait recueilli 31 voix. Cette année, il espère faire beaucoup mieux. Le troisième adjoint au maire de la ville d'Arouet retente sa chance aux élections sénatoriales. Avec sa suppléante Mélodie Terricky, il présente un programme essentiellement axé sur la dépollution des sites rétrocédés par l'État aux communes. Écoutez-le au micro de Pascal Bassianaggi.
Nous allons monter au créneau au niveau du Sénat pour attirer l'attention du Sénat sur cette situation qui est complètement un non-sens en termes de cohérence entre « je vous donne et j'ai l'impression d'être sympa » et de se retrouver avec un cadeau pour lequel nous sommes dans l'incapacité de développer. Il y a une loi en France qui a été adoptée lorsque l'amiante a été placée comme étant un matériau dangereux. C'est d'étendre ce dispositif et de voir comment est-ce que ce dispositif peut prendre en charge la destruction de ces bâtiments-là. Donc ce sont deux éléments qui nous paraissent aujourd'hui être une réponse. Et le rôle des sénateurs, c'est de composer sur des problématiques de proximité si on veut être beaucoup plus efficace et convaincre de la pertinence de nos choix.
Ne reste plus qu'à convaincre les grands électeurs, à savoir les maires, les conseillers municipaux ainsi que les députés, de voter vert, ce qui est loin d'être gagné selon lui.
Une élection, ça sert à ça, ça sert à convaincre, ça sert à expliquer, ça sert à montrer que les projets que nous portons peuvent dépasser des clivages. Si ça ne sensibilise pas un élu qui va se réfugier uniquement derrière le fait que j'appartiens au Tapura, j'appartiens au Tavini ou j'appartiens au Tahouera, c'est un peu tristouné. Alors que les autres partis reprennent ensuite cette idée, on sera très content. On ne cherche absolument pas à monopoliser l'idée, ça c'est à nous, rien du tout. On veut simplement faire avancer la problématique. Mais ce qui m'inquiète, c'est que les autres qui se présentent ne s'intéressent pas beaucoup à une situation qui est celle-là. Ça me préoccupe parce qu'il y a une dimension de l'État dans cette affaire-là.
L'autre objectif affiché est de faire du vert la couleur du 21e siècle, explique le candidat. Pour Jacques Ébriand, les événements de ces derniers mois renforcent encore plus que jamais les convictions écologiques ainsi que les sénatoriales représentent une opportunité pour faire avancer ces idées. En cas de victoire au sénatorial, Jacques Ébriand déclare qu'ils siégeront dans le groupe Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir suivi ce journal. Il a été préparé par la rédaction de Radio 1 et de Thierry FM.